Frères et sœurs, les amis, voici donc arrivé au 29e dimanche du temps ordinaire. Comme je vous le dis chaque fois, le temps passe très vite. Et nous continuons notre chemin, c'est vraiment un chemin, avec l'évangéliste saint Marc, toujours ce chapitre 10, en n'oubliant pas ce que nous avons dit les dimanches précédents, à savoir que nous montons à Jérusalem. Je ne reviens pas là-dessus, mais il me semble que l'évangile de ce dimanche demande vraiment de ne pas oublier le contexte. Alors je voudrais simplement commencer par les derniers mots de cet évangile, le verset 45, qui sont « rançon pour la multitude », qui peut créer évidemment un contresens et une incompréhension. Car de manière ordinaire, le mot rançon, pour le commun des mortels que nous sommes, désigne le montant de la somme à verser. Tout simplement. Alors malheureusement, on connaît trop ce genre de choses depuis des décennies. Un preneur d'otage ou que sais-je encore va exiger une forte rançon. C'est bien ce que nous entendons. Mais à l'époque du Christ, ça n'est pas du tout ce sens-là. Au contraire, le mot rançon signifiait libération, c'est-à-dire la seule chose importante et définitive dans le contexte sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans quelques secondes, qui est le nôtre. Ce contexte est celui de l'occupation par les Romains. Alors, il ne faut jamais non plus l'oublier quand on lit la parole de Dieu. Donc, faisons attention, car cela nous entraînerait dans un contresens par rapport à l'écrit premier de saint Marc, c'est-à-dire le texte grec de l'évangile de saint Marc. Enfin, j'allais dire, en réfléchissant un petit peu avec son bon sens, imaginez une minute ou même une seconde, que Jésus doive payer quelque chose pour nous, c'est un contresens qui défigure, à mon sens, complètement, l'image de Dieu et l'image, bien évidemment, de son Fils. Alors nous savons aussi, et c'est là où le contexte est important, que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont lutté justement de toute leur force contre ces horribles pratiques de sacrifice humain qui auraient été faits en rançon, justement, de quelque chose. Non. Quand les disciples ont entendu Jésus leur dire, donc, je dois donner ma vie en rançon pour la multitude, il ne leur est pas venu une seule minute, voire une seule seconde à l'esprit, que Dieu pouvait exiger l'exécution de son Fils pour apaiser un quelconque courroux ou une quelconque colère. De fait, ou en effet, la notion de libération, c'est ce qui domine ce texte de l'évangile de saint Marc de ce jour. Je l'ai rappelé, le redit, bien sûr, il s'agissait de comprendre la libération de l'occupant, mais aussi de comprendre la libération définitive de l'humanité de toute espèce de mal, que ce mal soit d'ordre physique, moral ou spirituel. Et il faut se mettre là aussi à la place des disciples, dont je rappelle que ils viennent d'entendre pour la troisième fois, nous l'avons lu les dimanches précédents, que Jésus leur annonçait sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc j'allais dire une annonce de la part du Christ qui ne fait que confirmer, pour finir, leur crainte, ce qui nous aide à comprendre la question qui est posée dans la deuxième partie du texte. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ceux que Jésus surnommait en définitive les fils du tonnerre, voilà qui se détachent du groupe pour poser la question de savoir s'ils peuvent siéger à la droite ou à la gauche du Seigneur. Donc, voyez-vous, ce qui est quand même important, c'est de comprendre que cette question posée par quelques membres du groupe, des disciples, n'est pas une question qui arrive comme ça ou une question en l'air, mais le contexte, un, je le rappelle rapidement, la montée à Jérusalem, deux, la confirmation par trois fois de la part du Christ de l'annonce de sa passion, sa mort et sa résurrection, et troisièmement, évidemment, l'attente de la libération, à la fois de l'occupant, mais de la libération définitive de tout mal, ce qui va s'opérer, même si le mal continue à exister, ce qui va s'opérer, ne l'oublions pas, au moment de la mort du Christ sur la croix, où toute espèce de mal est terrassé et enfoncé à jamais. Oui, il ne faut vraiment pas oublier que le seul être humain qui soit parfaitement saint et parfaitement pur, c'est la personne du Christ. Et donc, il a porté nos péchés, il a porté ce mal qui nous ronge. Et c'est ce mal qui nous ronge parce qu'il l'a porté sur ses épaules, parce qu'il l'a porté en son corps. Eh bien, ce corps qui a porté le mal, comme il a été crucifié, eh bien, crucifie aussi le mal en crucifiant le corps. Et ça qu'il faut bien comprendre, j'allais dire presque de manière mystique. Hein. Voilà, la libération définitive est celle-ci. Ce passage, ainsi que la question des disciples et la réponse de Jésus, devait, à mon sens, trouver un écho dans la communauté à laquelle saint Marc rédige son évangile. Pourquoi je dis cela ? Parce que, à n'en pas douter, ça c'est même à peu près sûr et certain, la persécution était déjà présente. Hein. On le voit bien, la persécution, même si elle n'est pas physique, il y a une persécution au sens d'une traque incessante à l'égard de la personne du Christ et bien évidemment de ses compagnons de route, c'est-à-dire de ses disciples. Cette œuvre de libération de l'humanité, nous le savons, vous et moi, qu'elle n'est pas terminée. Elle nécessitera et elle nécessite, nous le voyons en ce monde aujourd'hui, encore beaucoup d'autres témoins comme les disciples du temps du Christ. C'est ce qu'on appelle les martyrs aujourd'hui, puisque le mot martyr veut dire témoin. Et les témoins, il en faudra toujours, et il en faudra jusqu'au bout, jusqu'au terme définitif de ce monde. Le dernier point, qui peut paraître un peu curieux, c'est la dernière phrase de Jésus, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. » Oui. Il dit cela parce que le Fils de l'homme dont parlent les prophètes dans l'Ancien Testament, notamment le prophète Daniel, était celui qui devait être sacré roi et roi de l'humanité. Donc c'est un curieux portrait d'un roi qui se laisse crucifier, qui se laisse molester, qui se laisse rejeter, et devant lequel on se met à genoux. Donc ce n'est pas du tout la conception que nous avons d'un roi. Ça me semble être là aussi le bon sens. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, tout simplement que libération et conversion, c'est un chemin qui n'est pas parallèle, c'est un chemin qui est le même. Nous comprenons assez facilement que se libérer de quelque chose, se libérer de nos péchés, se libérer de notre mal. C'est avancer dans le sens d'une conversion. Je désire me changer pour devenir meilleur. Et ça passe, bien évidemment, par un moment qui n'est pas toujours facile à vivre, mais n'oublions pas cela, conversion et libération vont de pair et marchent ensemble. Oui, nous pouvons graver dans notre cœur ce verset qui nous revient à l'esprit. Les chefs des nations païennes commandent en maître, il ne doit pas en être ainsi pour vous. Voilà, c'est peut-être un peu le verset que nous pouvons retenir et qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, puisque nous sommes les disciples. Nous sommes les disciples d'aujourd'hui, les disciples de l'aujourd'hui du Christ, de l'aujourd'hui de ce dimanche, c'est-à-dire de ce jour, de cette journée où nous commémorons le sacrifice du Christ par la messe, puisque la messe, c'est le sacrifice du Christ sous les apparences non sanglantes du pain et du vin. Oui, on dirait que le Seigneur, en s'adressant à chacun d'entre nous, nous dit, bien, écoutez, vous êtes mes disciples d'aujourd'hui, de 2021, et vous êtes le noyau et le ferment d'une humanité nouvelle. Soyez donc les uns et les autres, et soyons tous, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si c'est pas évident, à l'image du Fils de l'homme, en se faisant serviteur. Amen.